France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, les éditions Les Belles Lettres viennent de faire paraître un ouvrage intitulé « Les Moines d'Orient » qui constitue la réédition en un volume de 7 tomes parus sous ce même titre de 1961 à 1965 aux éditions du Cerf. En effet, ce livre monumental de 950 pages contient des textes et des traductions du grec du père André-Jean Festugière, prêtre dominicain et grand érudit français, né en 1898 et mort en 1962, et constitue l'un des travaux les plus marquants du XXe siècle sur la naissance du monachisme chrétien. La préface de cette nouvelle édition est due à Françoise Briquel-Chatonnet et Muriel Debier. Pour en parler, nous recevons Vincent Desroches. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et Olivier Delouis. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS et directeur de l'équipe Monde Byzantin au sein de l'UMR 8067 Orient et Méditerranée. Alors nous allons commencer, si vous voulez bien, par quelques éléments biographiques du père Festugière. Olivier, c'est à vous.
Oui, comme vous l'avez rappelé, il est né en 1898, deuxième enfant d'une famille de 9, étudiant à Paris très brillant au lycée Condorcet puis à Louis-le-Grand. Et il rentre en 1918 à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. D'ailleurs, dans la promotion de Georges Dumézil, qui est un autre historien des religions et anthropologue avec lequel il va rester très proche et avec lequel il entretiendra des dialogues très féconds. Il est agrégé de lettres en 1920, membre de l'école française de Rome, tout d'abord, et puis membre de l'école française d'Athènes en 1921, où il va travailler sur un site archéologique célèbre, celui de Philippe, le site visité par saint Paul, dans la Macédoine grecque. Mais à Philippe, ce n'est pas encore l'histoire chrétienne de la ville qui l'intéresse, mais il est encore antiquisant. Il travaille sur une confrérie en l'honneur du dieu Sylvain. La religion, mais pas encore la religion chrétienne. Et c'est peu de temps après, en 1923, il a 25 ans, qu'il reçoit une vocation religieuse. Il visite un moine à l'abbaye de Maretsu, dans la province de Namur. Et il a raconté cet épisode lui-même, en quelques minutes, dans ce monastère. Il a résolu de se donner à Dieu. Et la raison en était simple, écrivit-il, « Je me suis senti aimé ». Et il devient alors dominicain. Et il va se consacrer à la fois à ses études classiques, parce qu'il est, comme je l'ai dit, un antiquisant de formation, et puis peu à peu, également, au christianisme de l'Antiquité tardive. Et dès 1932, il y a un premier livre très marquant qui s'appelle « L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile ». Et l'idée de Festugière, si je peux dire en un mot, c'est qu'il manquait aux formes religieuses antiques et également à la philosophie grecque la notion d'un rapport personnel entre Dieu et l'homme. Et c'est un rapport qui, pour lui, va s'exprimer essentiellement donc dans la religion chrétienne. Et du coup, sa question, qui va être une question existentielle, est-ce que l'hellénisme classique a été comme une préparation à l'arrivée de l'Évangile, un Évangile qui frustre, qui comble pardon la frustration d'une relation privée avec Dieu. Et donc, il va travailler sur cette articulation entre monde classique et monde chrétien, et il va être en cela d'une très grande influence auprès de tous ceux qui vont travailler sur le monde patristique au XXe siècle, par exemple Marguerite Arles, qui a témoigné de l'importance de l'œuvre de d'André-Jean Festugière pour ses propres recherches. Alors peu à peu, il va se tourner également vers la géographie, dont on va parler essentiellement. Ce sont des volumes tout à fait importants pour les byzantinistes, pour ceux qui s'intéressent au christianisme de langue grecque essentiellement, on y reviendra. Et il prend en un sens le chemin d'une génération comme Henri-Irénée Maroux, comme Peter Brand après lui, des gens qui vont s'intéresser à ce qu'on a appelé l'Antiquité tardive et le passage de la religion classique, de la religion grecque, au christianisme. Voilà ce qu'on peut dire, pour aller très vite, du début de sa formation. Alors, essentiellement, il va faire sa carrière à l'École pratique des hautes études. Il est élu là-bas en 1943, il y enseigne 25 ans, et il va donner de très grands livres, comme « Antioche païenne et chrétienne au IVe siècle », le recueil des moines d'Orient, que nous allons commenter, et puis il va beaucoup traduire, et notamment les actes des conciles œcuméniques, notamment celui de Chalcédoine en 451.
c'est, je crois, le moment pour parler aussi de cette nouvelle édition. Deux mots sur cette nouvelle édition qui, en fait, est une réédition, mais je crois que c'est la première fois qu'on présente l'œuvre comme ça.
Oui, cette œuvre a été publiée alors en 4 volumes, mais 7 fascicules. On n'arrive jamais à tous les avoir en même temps parce qu'ils sont très courus sur le marché des livres anciens. Et les avoir réunis est une excellente idée parce qu'ils contiennent donc là une période tout à fait importante de la géographie grecque, donc des vies de saints, dont on examinera le détail dans un instant. Et l'aspect tout à fait remarquable de ces fascicules aujourd'hui réunis, c'est de donner à lire dans une langue française absolument, je dirais, précieuse, épatante de proximité avec le grec, de donner à lire toutes ces vies qui vont être fondamentales pour la géographie grecque, considérée comme un genre littéraire qui, à son époque, n'a pas les faveurs des hellénistes. Et donc se pencher sur ces textes, les examiner dans leur particularité grammaticale, dans leur particularité de vocabulaire, nous fait rentrer immédiatement dans un monde qui, jusque-là, avait été encore peu connu. Et aujourd'hui, ça demeure une clé d'entrée privilégiée dans les vies de ces saints moines d'Orient.
Merci beaucoup. Alors, il est temps d'en venir au contenu. Et puis, évidemment, expliquer pourquoi le travail de Festugère est un travail de pionnier, si je puis dire, et qu'est-ce qu'il y a dedans qui donne cette importance à cette œuvre. Vincent Desroches.
Merci. Alors, déjà, ce qu'il y a dans cette œuvre, c'est une sélection de vies de saints de la première époque byzantine, où volontairement il omet la vie d'Antoine trop connue, et de même, il comble des creux, des manques. C'est des textes qui, bien sûr, étaient déjà édités de longue date, mais pas traduits, en fait quasi inaccessibles au public. C'est pour cela qu'il y a, par exemple, il laisse tomber les apostegmata patrum, des choses comme cela. Et en revanche, il se consacre à la remarquable édition de Cyril Sétoblis par Schwartz, qui restait sans traduction, parce que c'est un témoin essentiel, en fait, de la Palestine du 5e, 6e siècle. Il s'intéresse à la vie d'Hypatios de Kalinikos, parce que c'est un premier témoignage sur le monachisme à Constantinople, d'importation provinciale, comme Daniel le Stylite aussi. Il s'intéresse aussi à des témoins de l'Égypte un peu négligés, c'est-à-dire la vie grecque de Pacôme, qui en fait n'était pas très bien connue et surtout pas traduite à l'époque, l'enquête des moines en Égypte, la sœur Monachorum in Egypto, etc., etc. Donc, il va viser à rendre accessible aux gens de bonne volonté et d'un peu de culture, des textes qui jusque-là étaient un peu négligés, qui étaient le patrimoine, si j'ose dire, perbolandiste, etc., qui n'existaient qu'en grec, et pour des érudits. Et pour cela, évidemment, il y a des motivations qui lui sont propres, qui sont un peu complexes, un peu étonnantes. D'une part, effectivement, il est tout entier, Olivier l'a jamais démontré, dans le problème de Tertullien, que pourtant il ne cite pas. Qu'est-ce qu'Athènes a à dire à Jérusalem ? Festugère est intimement persuadé qu'il n'y a pas d'altérité irréductible entre la philosophie païenne dont il est spécialiste, c'est celle de son travail, et le christianisme auquel il adhère, bien entendu. Et c'est cela qu'il va essayer de démontrer. Alors que, justement, ce faisant, il le fait à travers des textes qui ne sont pas les mieux placés pour le faire, parce que souvent, ces vies de moines sont entre guillemets, anti-intellectuel, ou tout le monde n'insiste pas tellement sur la culture antique. Et enfin, Festugère l'accepte, c'est l'un des premiers à essayer de travailler correctement sur ce grec qui n'est plus vraiment classique, qui est en partie marqué par l'oralité, par exemple, des traits de la traduction grecque, de la vie grecque de Pacôme. Il explique non pas par la traduction du copte, mais simplement parce que c'est du grec parlé, et que c'est pas évidemment du Lysias ou de Démosthène. Et il a mieux compris que d'autres ce genre de choses. Donc, il a ainsi créé quelque chose qui est un dossier très utile, en plus, pour une raison qu'il ne dit jamais vraiment, mais qui, à mon avis, est quand même capitale, c'est qu'on est dans, lorsqu'il travaille, c'est la fin des années 50 et puis le début des années 60, en réalité, on a l'approche de Vatican II, enfin, même avant que le Conseil soit convoqué, tout le monde sait qu'il y a quelque chose là, et l'un des points essentiels pour Festugère, c'est effectivement de faire connaître la chrétienté d'Orient, tout au moins ses textes fondateurs, au monde occidental catholique qui jusqu'à présent n'avait en gros que ce qui était passé par Jean Cassien, enfin des traductions latines très anciennes, sur le monachisme égyptien. Donc il renforce sur le monachisme syrien et constantinopolitain. Il fait une sélection qui est quand même assez étonnante, parce qu'il parle d'Hypatios, mais il ne parle pas de celui qui a recueilli Alexandre Lassémète, et il ne parle pas d'Alexandre Lassémète lui-même, dont la vie est un peu moins politiquement correct, hein, puisque c'est un homme qui en fait traîne avec lui des centaines de moines mendiants, au point que les villes, parfois de province d'Asie mineure, lorsqu'il va à Constantinople, lui ferment leurs portes parce qu'ils n'auront pas les moyens de nourrir tout ça. Donc avec Hypatios, ça s'agit. Hypatios, c'est les reçoit, et c'est autre chose. Et également, il va s'intéresser ensuite, mais là, il n'a pas eu le temps de le faire, au 7e siècle, par la vie de Simon Salos, il y a des aspects très différents du monachisme, ou encore vie de Théodore Sikéon, à tout point de vue. Donc, on retrouve, surtout dans son premier volume, le volume de synthèse, ce problème qui se pose sans arrêt. Le texte qui, pour lui, est canonique, c'est une lettre de Charlemagne à l'abbé de Fulda, disant effectivement qu'il faut que les moines apprennent pour pouvoir comprendre, expliquer aux autres. Et souvent, ce que fait celui-là reproche à ces moines orientaux, c'est avoir un peu trop renoncé à la culture grecque ou ne pas avoir voulu l'apprendre au départ. Sans quoi il est parfois un petit peu excessif.
Excusez-moi, la culture grecque ou la culture tout court ?
C'est un peu la même chose au même moment, parce que la culture grecque est aussi la culture en bonne partie païenne. Et pour Festugère, ce en quoi d'ailleurs il a assez raison, l'évolution de la philosophie païenne, sous que j'appelons par les néoplatoniciens, est un quasi-mysticisme qui traite Platon en exégèse, comme pratiquement les pères de l'Église font l'exégèse de l'Évangile. Hein. On n'est pas si loin de ça. Hein. C'est vu ensuite, Peter Brown, d'autres l'ont bien montré ensuite. Il y a une communauté de destin et de vision. On n'est pas sur le même Dieu, mais sur une même religiosité, une religiosité très comparable.
Merci beaucoup. Nous faisons maintenant notre pause musicale et pause de prière avec un extrait de la grande paraclèse de la Mère de Dieu par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos. Sur cet extrait de la grande paraclèse de la Mère de Dieu par le chœur byzantin de Grèce, sous la direction de Lycourgos Angelopoulos, nous revenons à notre conversation avec Vincent Desroches et Olivier Delouis sur Les Moines d'Orient, un livre du père Festugière, réédité récemment. Alors Vincent Desroches, un mot aussi sur les différentes parties de ce livre et les centres qu'il a choisis pour présenter le monachisme de cette époque-là. On voit les parties Palestine, Égypte, Constantinople, même présentées au début.
Tout à fait. Alors d'une part, l'Égypte, un peu minoritaire parce qu'elle est censée être connue. C'est pour ça qu'il n'y a que deux textes, ce qui est assez peu. Un gros focus sur la Palestine, tout au moins sur le monachisme chalcédonien, c'est maintenant, disons, orthodoxe, installé là parce qu'il est fondateur, il va devenir un modèle pour le Moyen-Âge, à travers ses vies, à travers les règles qu'il donne, et aussi l'ordre liturgique jérusalemite va en fait être à l'origine de l'ordre liturgique byzantin. Et ensuite, ce qui est intéressant, Festugière se tourne vers un monachisme constantinopolitain premier, des premiers siècles, qui était assez peu connu ou mis en valeur à l'époque. D'une part, la vie d'Hypatios, parce que c'est le premier témoin bien clair d'un monastère cénobite en ville, avec la clôture, tout un type d'organisation qui nous rappelle typiquement les bénédictins, en fait. Et ensuite, une vie complètement différente d'un ermite au milieu de la ville, mais bien les moyens très particuliers d'être ermite, c'est Daniel le Stylite. Alors, qui indique bien un changement d'époque. Le monachisme est quand même d'abord syrien et égyptien. Daniel est justement un Syrien. Il reprend la technique de Simeon Stylite, c'est-à-dire passer toute sa vie au sommet d'une colonne sur une plateforme en bois, je vous rassure, sans jamais descendre. Mais il vient le faire dans la banlieue de Constantinople, en apportant, si j'ose dire, un monachisme qui, ailleurs aussi à Constantinople, est souvent d'origine provinciale.
Olivier Deluy, un extrait donc de ce texte.
Oui, alors un extrait donc de la vie de Daniel le Stylite, dont on place la mort en 493 et qui a passé à peu près 30 ans sur sa colonne à Constantinople. Sa vie est une œuvre ancienne qui est vraiment remplie de détails. On a l'impression vraiment d'un témoignage de quelqu'un qui a vu les éléments de cette vie. Et je propose, pour avoir une idée aussi de l'aisance de la langue dans laquelle est rendu ce texte par André-Jean Festugière et l'ensemble des textes de ce volume, de vous lire le passage correspondant à la mort du saint et à comment on va descendre le corps relique de ce saint, de sa colonne, ce qui est quand même pas facile. Alors je cite, « Quand on eut enlevé le parapet, on trouva les genoux du saint collés à sa poitrine, ses cuisses à ses talons et à ses jambes. Et lorsqu'on voulut forcer ses membres à s'étendre, il se fit un tel craquement des os que nous pensions qu'il éclaterait en morceaux. Néanmoins, une fois qu'on l'eut déposé, son corps apparut complètement intact, sauf que les pieds avaient été rongés par la gangrène et les vers qui le mangeaient. La masse des cheveux de sa tête était divisée en 12 queues, chaque queue mesurant 4 coudées. Pareillement aussi, la masse de sa barbe était divisée en 2 queues, chaque queue étant de 3 coudées. Cela, la plupart des amis du Christ l'ont vu. On le revêtit d'une tunique de peau, comme il en avait coutume, et lorsqu'on eut apporté et placé sur la colonne une planche, il y fut déposé. Au profond de l'aube, le très aimé de Dieu archevêque Euphémios, patriarche de Constantinople, arriva et étant monté sur la colonne par l'escalier, qui est mis pour enlever le corps, il embrassa la pieuse dépouille. À leur tour aussi, tous les fidèles constitués en dignité et en autorité montèrent au sommet de la colonne, reçurent la bénédiction du bienheureux corps et l'embrassèrent, puis redescendirent. Le peuple demanda qu'avant l'enterrement, le saint lui fût montré. Et en conséquence, il se fit alors un incroyable tumulte. En effet, sur l'ordre de l'archevêque, on dressa debout la planche sur laquelle le corps avait été fixé, de manière qu'il ne pût tomber, et à la manière d'une icône, le saint fut exposé de tous côtés à la vue de tous. Tous, pendant de longues heures, purent le contempler pareillement, et avec cris et larmes, ils le suppliaient d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Après cela, voici que soudain il apparut à tout le peuple, visible à l'œil nu, 3 croix dans le ciel, au-dessus du cadavre, cependant que des colombes blanches volaient autour de lui. » Alors ce passage témoigne de la célébrité du saint, du tumulte qui se fait au moment de sa mort, et finalement on voit bien qu'un stylite à Constantinople n'est pas séparé du peuple des fidèles. Immédiatement, la nouvelle de sa mort se répand, et tout ce que la ville contient de notabilité, le patriarche le premier, viennent rendre compte, rendre hommage plutôt, au parcours de ce stylite dans la ville même de Constantinople.
Un exemple très, très fort quand même de cette atmosphère qui est tellement loin de nous, dans le temps, dans la vie citadine en plus, qui est tellement différente. Nous allons vers la fin de cette émission et je voudrais, je vois que sur la quatrième de couverture ici, les deux responsables de la préface, c'est-à-dire Françoise Briquel-Chatonnet et Muriel Debier, disent que ces traductions des vies grecques d'ascètes chrétiens devraient se trouver sur les étagères de tous les étudiants historiens de l'Antiquité tardive, des historiens, psychologues et sociologues des religions, en particulier des spécialistes du christianisme ancien, ainsi que plus largement de tous les curieux de l'histoire du christianisme. Alors, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et est-ce que vraiment l'œuvre du Père Festugière est une entrée en la matière? Olivier?
Je crois que pour tous ceux qui ont étudié Byzance, on a tous ouvert les volumes du père Festugière, qui, alors c'est une œuvre immense, hein, c'est, on parle de 70 livres et 180 articles scientifiques, hein, dans ces nécrologies. C'est une œuvre absolument phénoménale. Et puis, c'est surtout un traducteur hors pair. Alors, il a traduit les Vies de Saints, mais il a aussi traduit des textes classiques, les commentaires de Proclus sur le Timée et la République, la Clé des Songes d'Artémidore. Il avait le goût et le talent de la traduction. Et on lui prête cette phrase, quand on l'interrogeait sur l'exactitude scrupuleuse de la traduction qu'il espérait atteindre, il disait « Dieu est dans un iota souscrit », hein, pour dire que dans le détail, vraiment, de la traduction, se jouent des enjeux considérables auxquels il a su répondre par son œuvre, oui.
Vincent, vous confirmez cette...
Ah, tout à fait, parce que Festugière a ainsi remis... réellement accessible, tout un patrimoine dont on avait un peu sous-estimé l'importance. Maintenant, la géographie est presque le cheval de bataille de l'histoire tardo-antique, mais au moment où Festugière rédige ses traductions, ce n'est pas encore tout à fait le cas, sauf dans des milieux très informés, disons vraiment spécialisés. Et grâce à lui, enfin, ces textes ont revécu, en quelque sorte, nous sont de nouveau disponibles.
C'est pourquoi précieux. Je rappelle que vous enseignez le christianisme byzantin à l'école pratique d'autres études, donc je pense que vous êtes souvent plongé dans ces lectures. Un grand merci donc Vincent Desroches, Olivier Deluy. Je rappelle le titre de l'ouvrage du père André-Jean Festugière, Les Moines d'Orient, c'est une réédition de 2025 aux éditions Les Belles Lettres. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son, Alison Ascrizzi. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Bon dimanche à tous. Amen.